Lizzie présente Une relation dangereuse de Douglas Kennedy, lu par Laure Filiu. Un autre pour Amelia et Max, un autre pour Grace. Dans mon énorme ville, il fait nuit, quand je quitte la maison endormie. Peut-être me croit-on de quelqu'un l'épouse ou la fille, mais tout ce qui occupe mes pensées, c'est la nuit. Elaine Feinstein, Insomnia. Chapitre 1. J'avais fait la connaissance de Tony Hobbs depuis une demi-heure quand il m'a sauvé la vie. Cela risque de paraître un peu mélodramatique, je sais, mais c'est vrai. En tout cas aussi vrai que ce qui peut sortir de la bouche d'un journaliste. Je me trouvais en Somalie, un pays que je n'avais jamais eu l'intention de visiter jusqu'au jour où, par la magie d'un coup de téléphone reçu au Caire, j'ai été envoyée d'urgence là-bas, un vendredi après-midi. Comme la plupart des autres résidents étrangers dans la capitale égyptienne, je consacrais ce jour de repos officiel dans la semaine musulmane à me reposer. Plus précisément, j'étais en train de prendre un bain de soleil au bord de la piscine du club Jezira, jadis le havre des fonctionnaires britanniques sous le règne du roi Farouk, de nos jours le rendez-vous exclusif du Bollinge Kérot et des divers expatriés basés en Égypte. Comme tout était d'un calme absolu ce jour-là, j'avais quitté le bureau à 1 heure, décidé à m'accorder ce luxe dans la vie d'un correspondant de presse, un moment de répit, et au soleil. Car si ce dernier brille à profusion dans la région, mes collègues et moi n'avions guère le loisir de lézarder sous ses rayons. Surtout moi, avec mon poste de correspondant volant, j'étais censé couvrir à moindre coût l'ensemble du Moyen-Orient et toute l'Afrique de l'Est. Et c'est ce qui m'a valu le coup de fil déjà mentionné. Sally Goodchild, c'est vous ? Chargée de crachouillis transatlantiques, la voix, de toute évidence américaine, m'était inconnue. En effet, je me suis redressée sur la chaise longue, pressant mon mobile contre l'oreille pour atténuer le bavardage incessant d'un quatuor de dames égyptiennes installé près de moi. Qui est-ce ? Dick Leonard, à la rédaction. J'ai attrapé en hâte un calepin et un stylo dans mon sac avant de trouver un coin plus calme sous la véranda. La rédaction. C'était mon employeur, le Boston Post. Et s'il m'appelait sur mon portable, ils devaient avoir leur raison. « Je suis nouveau », a poursuivi Leonard. « Et aujourd'hui, je remplace Charlie Gecken, qui est absent tout le week-end. » Gecken, le chef du service étranger, mon patron direct. « Enfin, je suis sûr que vous êtes au courant pour les inondations en Somalie. »« Il y a des inondations en Somalie ? » Ai-je laissé échapper ? Ce que je voulais dire, en fait, c'était « Ça n'est pas déjà arrivé il y a 5 ans ?»« Vous n'êtes pas au courant, alors ?» Une règle d'airain de la profession de journaliste, ne jamais avouer que l'on a pu perdre le contact avec le reste du monde, ne serait-ce que 5 minutes. J'ai enchaîné tout de suite. « Ça a commencé quand ?»« Il y a 2 heures environ, d'après CNN. Et à en croire toutes les agences, celle de 1997 était de la petite bière à côté. » Où exactement en Somalie ? La vallée de Jouba. Et le bilan, pour l'instant ? On n'a pas de chiffres précis, mais au moins 4 villages ont été rayés de la carte. Ils pensent que les morts et les disparus vont se compter par milliers. Et donc la rédaction voudrait avoir quelqu'un là-bas. Vous, en fait. Vous pouvez partir tout de suite ? Il n'y a pas 36 réponses possibles à ce genre de questions. Une seule. Et il faut la donner sans marquer la moindre hésitation, si l'on ne veut pas entendre sa motivation mise en doute ensuite. Pour ma part, en 4 années de correspondance étrangère, je n'avais jamais réagi autrement que par un oui déterminé aux demandes de mes supérieurs. En dépit de son renom, le Boston Post était un journal qui n'avait en aucun cas les moyens d'un New York Times ou d'un Washington Post. Dès qu'une urgence se présentait dans la vaste zone qui m'était confiée, et qui, soit dit en passant, semblait particulièrement abonnée aux catastrophes naturelles et aux événements sanglants, j'étais tenue d'endosser mon uniforme de pompier de l'info et de filer dardard sur les lieux. C'est ainsi que, 4 heures seulement après l'alerte, J'étais en vol pour Mogadiscio, prête à affronter les caprices imprévisibles d'Ethiopian Airlines et un changement d'avion à Addis Abeba. Il était à peine minuit lorsque je suis sortie dans la touffeur africaine de la capitale somalienne, avec l'espoir de trouver un taxi et un lit d'hôtel. Le chauffeur que j'ai fini par convaincre de me prendre ne se contentait pas de conduire comme un kamikaze. Il a entrepris d'enchaîner les routes les plus secondaires pour rejoindre le centre-ville, m'entraînant sur des chemins non seulement chaotiques, mais aussi déserts. Comme il a eu un petit rire quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi ce drôle d'itinéraire, j'ai sorti mon téléphone cellulaire, composé un numéro et intimé l'ordre au réceptionniste de l'hôtel central d'appeler aussitôt la police pour les prévenir que j'avais été enlevée par un chauffeur de taxi dont le véhicule était immatriculé. Car j'avais mémorisé la plaque avant de monter, oui. Sans me laisser le temps de terminer, l'intéressé s'est répandu en excuses et s'est empressé de rejoindre l'axe principal en me suppliant de ne pas lui causer d'ennui. Mais c'était un raccourci, franchement. En pleine nuit, alors qu'il n'y a pas un chat sur la route, vous voulez que je croie ça? Ils seront à l'hôtel? La police? Si vous me conduisez à bon port, je retéléphonerai pour dire que tout va bien. Un mensonge éhonté. Je n'avais jamais appelé l'hôtel. Dans mon départ précipité, je n'avais pas eu le temps de réserver, ni même de les faire prévenir de mon arrivée. J'avais donc appuyé sur les touches au hasard, avant de japper dans un téléphone non connecté, en priant pour que ma voix ne flanche pas et pour que ma mise en scène soit assez convaincante. Elle l'avait été, visiblement. Et si je devais un jour raconter cette petite histoire à mon chef, Charlie Gecken aurait sûrement son commentaire habituel, qui lui servait à illustrer mes hauts faits. « C'est bien notre Sally, ça, mademoiselle fonceuse !» Je n'avais aucune intention de rapporter l'incident à Charlie, cela dit. Contrairement à tant de journalistes, je n'ai jamais été tentée de me mettre en valeur à tout prix. Un reste de mon éducation Nouvelle-Angleterre, sans doute. C'est toujours une tierce partie qui a relaté à Charlie les exploits pour lesquels il m'a affublée de ce sobriquet. Personnellement, je trouvais ce mademoiselle fonceuse un peu puéril, pour ne pas dire paternaliste. Mais je l'ai accepté de bonne grâce les rares fois où il m'a appelé ainsi en ma présence. De sa part, c'était un compliment sincère. Il faut croire que je m'étais gagné au journal la réputation de quelqu'un qui se débrouillait toujours pour ramener son papier, malgré les obstacles et les dangers survenant en travers de sa route. Pour moi, ce n'était pas être fonceuse, c'était être consciencieuse. Faire son boulot en essayant de garder tous ses os entiers. Et c'est en appliquant ce principe que je suis arrivée entière à l'hôtel central de Mogadiscio, non sans accepter les excuses renouvelées du chauffeur, ou que, après 4 heures de sommeil, j'ai réussi à entrer en contact avec l'antenne de la Croix-Rouge internationale en Somalie et à les convaincre de m'accepter dans l'un des hélicoptères en partance pour la zone du désastre. Il était à peine 9 heures quand nous avons décollé d'un aéroport militaire aux abords de la capitale. Je me suis retrouvée assise à même le plancher glacé de l'appareil, aux côtés de 3 envoyés de la Croix-Rouge. C'était un vieil hélico poussif et bruyant qui a fait une inquiétante embardée à tribord au décollage, nous projetant tous les 4 contre les lourds harnais de sécurité fixés à la paroi que nous avions bouclés avant de quitter terre. Une fois que le pilote a pu le stabiliser, le type en face de moi m'a décoché un grand sourire et m'a crié « Eh bien, c'est ce qu'on appelle un bon départ !» Malgré le rugissement des pales, j'ai perçu son accent britannique. En l'observant plus attentivement, j'ai conclu qu'il n'avait rien du travailleur humanitaire habituel. Pas seulement à cause de cette remarque pince sans rire lancée d'un ton désabusé alors que nous avions apparemment frôlé le crash. Pas seulement pour son pantalon et sa chemise en jean délavé, complétés par des lunettes en écailles très tendances, ni en raison de ses traits bronzés qui, de pair avec ses cheveux blonds blanchis par le soleil, lui donnait un air de baroudeur non dénué de charme, surtout si l'on aimait ce genre de regard qui trahit l'insomniaque chronique. Et je dois avouer que j'aime plutôt. Non, l'indice qui m'a vraiment convaincue que ce type n'était pas de la Croix-Rouge a été ce sourire espiègle, où on lisait même une amorce de flirt après un décollage aussi éprouvant pour les nerfs. J'en ai donc déduit qu'il devait être journaliste. Je discernais tout aussi clairement qu'il était en train de me jauger, de m'évaluer, sans doute sur le point de parvenir à la même conclusion à mon sujet. Et, bien entendu, je me suis demandé comment il me voyait,